Il est 7h moins le quart, oui. C'est votre heure, Anthony Bélanger, pour l'histoire du monde, direction l'Espagne, où des douaniers ont appréhendé un narco-sous-marin.
Oui, cette histoire incroyable se passe en Galice, à l'ouest de l'Espagne, une région qu'on sait depuis longtemps liée au narcotrafic. Les douaniers et les policiers espagnols avaient été avertis par la DEA, c'est-à-dire l'agence états-unienne, chargée de la lutte contre le trafic de drogue. Donc, nos Pandores ibériques ont planqué pendant une bonne semaine à Cangas de Umarasu, une petite ville portuaire de la province de Pontevedra. Ce qu'ils espéraient, eh bien, c'était surprendre le transbordement de plusieurs tonnes de cocaïne venues d'Amérique. Surtout, ils rêvent de voir un de ces fameux narco-sous-marins dont les repentis parlent depuis plus de 10 ans et que personne n'a jamais vu. Et ce, pour une bonne raison, sitôt transbahuté la marchandise à bord, disons, d'un bateau de pêche, eh bien, ces sous-marins sont coulés.
Et comment ont-ils réussi à le saisir avant qu'il ne coule, ce sous-marin?
C'est simple, les transbordeurs ne sont jamais venus, probablement prévenus de la présence policière. Au bout d'une dizaine de jours, n'en pouvant plus, les trois hommes d'équipage du narco-sous-marin se sont approchés de la côte pour échouer leur engin et s'enfuir. Les policiers les ont donc arrêtés. On en a arrêté deux d'entre eux, deux équatoriens, et surtout, ils ont remorqué l'engin, et ils n'en sont toujours pas revenus. Le narco-sous-marin n'est pas une petite bricole tout sautante. Il fait 22 mètres de long et il est équipé d'un moteur de 2000 chevaux, et surtout, il a été capable de quitter son port d'attache et de fabrication, le Guyana, ou plus probablement le Suriname, un pays frontalier avec la Guyane française d'ailleurs, et de parcourir d'un trait les 8000 kilomètres d'océan Atlantique pour allier les côtes galiciennes.
Mais ils étaient entraînés, ces sous-mariniers?
C'est peut-être le plus fascinant de cette histoire. À peine entraînés, quelques jours d'entraînement suffisaient visiblement pour leur apprendre à supporter la pression en cas de submersion, pas plus de quelques mètres sous l'eau, mais tout de même, un système de navigation automatique les guidait. Mais le plus grand danger, c'est de veiller à aérer l'engin régulièrement à cause des vapeurs de cocaïne qui s'échappent de la cargaison et peuvent être mortelles. Le voyage dure une bonne semaine. Alors on connaît même le prix de fabrication, figurez-vous, de ces engins, 2 millions d'euros au bas mot. On peut même se demander si les paquets de cocaïne retrouvés en quantité, vous savez, sur les plages françaises, il y a quelques semaines, ne provenaient pas de l'échouage d'un de ces sous-marins.
Et c'est pas la première fois que les narcotrafiquants utilisent des submersibles.
C'est vrai, on sait même qu'à l'origine, c'est une idée de Pablo Escobar, qui par le biais des Cubains avait tenté de racheter aux Russes, c'est incroyable, au début des années 90, un vrai sous-marin, celui-là. Les Russes avaient décliné l'offre, ils s'étaient donc tournés vers l'auto-construction, donc des mini-sous-marins transportant de la cocaïne de la Colombie vers le Mexique et les États-Unis. Ça avait déjà été tenté, mais les Américains les repéraient trop facilement. Les cartels ont donc tenté le voyage transatlantique, d'abord à destination de l'Afrique, puis plus récemment des îles Canaries. Enfin, devant le succès, les côtes espagnoles et surtout la Galice, vieille terre de contrebande et de trafic en tout genre vers l'Europe du Nord, l'opération de Cangas de Umarasu en est juste l'éclatante confirmation.
Incroyable, comme vous dites, c'était l'histoire du monde d'Anthony Bélanger.